Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast Les Minutes d'Anso où on vous raconte sans langue de bois tout ce qui se passe au Parlement européen. Pour ce premier podcast, je suis ravie d'accueillir Marc Botenga avec lequel nous allons parler des vaccins.
D'affaires, en fait, a été invoqué par la Commission européenne pour ne pas, dans un premier temps, publier les contrats et dans un deuxième temps pour justifier des contrats qui étaient très fortement censurés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce secret d'affaires, quand on regarde par exemple les États-Unis, ben, aux États-Unis, toute une série de ces contrats ont été publiés quasi entièrement, hein, par différents États de manière différente, etc., mais quand même. Et donc, la première question que nous on s'est posée, c'est comment ça se fait que le gouvernement américain aurait une définition différente que du secret d'affaires que, par exemple, les autorités européennes. Et c'est clair qu'il y a une série d'éléments qui ne relèvent pas du secret d'affaires qu'on pourrait publier. Je veux dire, on comprend bien que des détails par rapport au processus de fabrication ou quoi que ce soit, ça pourrait relever du secret d'affaires. Mais quand on parle des engagements ou du prix, etc., ou des questions par rapport au droit de propriété intellectuelle, donc par rapport au brevet, il n'y a vraiment aucune raison que ça relève très strictement du secret d'affaires. Donc on a trouvé ça un peu une excuse facile, si on veut, de la Commission européenne, d'invoquer cela pour en fait refuser une transparence qui devrait aller de soi.
C'est pour ça, Marc, alors que tu es avec d'autres à l'initiative de cette initiative, c'est pour en fait pour un vaccin pour tous et la levée des brevets pour qu'il y ait un vaccin pour tous. C'est ça le but de l'initiative?
Oui, je pense. Je pense que on a cru ou pas cru, mais beaucoup de gens ont cru quand même en avril 2020, donc il y a presque un an, que quand Madame von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, est venue au Parlement en disant ce vaccin sera un bien commun universel, on a voulu y croire parce que effectivement ça a un sens. Je veux dire, on a une pandémie, hein, qui est globale évidemment par définition. Alors c'est normal que ce vaccin soit sous contrôle public, d'autant plus qu'on l'a financé, hein, donc on l'a financé à différentes
Oui,
étapes.
oui.
Donc voilà, on s'est dit d'abord avec notre groupe de lancer une pétition, et puis on a vu qu'il y avait une initiative citoyenne qui était lancée. On s'est dit, bah, on va la soutenir, évidemment, pour avoir toute la transparence d'une part, hein, et pour d'autre part, avoir effectivement, pouvoir en finir, disons, avec ces retards, ces questions, etc., sur les vaccins qui, désormais, nous domine la vie, si on veut, au quotidien.
Ouais, ça c'est sûr. Et malheureusement, enfin, j'ai quand même la sensation, parce qu'on l'a vu, Madame von der Leyen, dans notre groupe, venir il y a 15 jours maintenant, me semble-t-il, où j'ai senti qu'il y avait une forme de mea culpa. Mais au final, j'ai l'impression quand même qu'elle s'est beaucoup couchée devant les Big Pharma et que finalement, c'est encore les Big Pharma qui ont fait leurs propres lois et qui ont édicté finalement leur demande où ils ne voulaient pas qu'on soit transparent sur les contrats de vaccins. Et ce que je pense de plus grave, c'est qu'avant d'avoir signé ces contrats de vaccins, il y a certainement eu des négociations avant, des contrats de vaccins anticipés, et là non plus, le Parlement n'a absolument pas été contacté, ni même on nous a pas demandé notre avis sur ce qu'on pensait finalement l'Union européenne allait faire concernant ces vaccins, alors que ça concerne la santé des gens. Nous n'avons pas eu à nous prononcer. Jamais on nous a demandé notre avis, alors que aussi bien toi dans tes interventions, parce que tu en as fait beaucoup en demandant souvent la même chose, la transparence, nous n'avons jamais été interpellés sur que pense le Parlement des contrats anticipés et même des contrats. Donc il y a aussi un problème démocratique et un problème démocratique qui touche la santé des gens quand même.
Je pense que effectivement les débats et je trouve que Madame von der Leyen s'est un peu cachée parfois dans tout ce débat, toutes ces discussions, soit derrière la commissaire à la santé, soit en communiquant par des petites vidéos préenregistrées où il était effectivement difficile de poser des questions, évidemment. Mais plus fondamentalement, quand on négocie ce genre de contrat, donc ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un petit comité de négociateurs dont on ne connaît pas les noms, dont on ne sait pas, enfin, il y a un ou deux noms qui ont fuité, mais dont on sait pas grand-chose finalement. Et effectivement, ces contrats sont importants pour la santé des gens et aussi pour en finir au plus tôt avec cette pandémie, parce que je pense qu'on a un peu tous marre du confinement ou déconfinement répété. On voit que ça pourrait aller beaucoup plus vite, qu'on pourrait avoir plus de données, qu'on pourrait avoir comment dire une vue meilleure sur sur tout le processus. Et moi, ce que je regrette évidemment, c'est que quand on dit que la Commission européenne s'est couchée ou s'est prosternée devant les lobbies pharmaceutiques, ce n'est pas uniquement sur la question de la transparence, c'est aussi par rapport au contenu de ces contrats. Parce que là, on voit que, voilà, quand on négocie un contrat, évidemment, on peut bien négocier, on peut mal négocier. Évidemment, probablement qu'on ne gagne pas tout ce qu'on veut, c'est normal. Mais ici, on voit que, à différentes étapes, comme je le disais tout à l'heure, nous avons payé, financé, préfinancé, les vaccins. Nous avons pris le risque financier aussi en cas de défaut ou de vice caché, comme on dit. Mais à la fin, la propriété du vaccin reste seulement, uniquement, totalement dans les mains des industries pharmaceutiques. Ça, c'est un peu bizarre. C'est comme si j'achetais quelque chose et ensuite je devrais encore payer de manière répétée pour pouvoir, je sais pas, l'utiliser ou m'asseoir dessus ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quand même particulièrement
Et c'est quand
mauvais.
même l'argent des citoyens européens,
Absolument,
c'est
absolument.
de l'argent public, hein.
Absolument, absolument.
Et si tu me permets, parce que nous on voit en France, par exemple, bon, cette politique vaccinale. Nous, en France, on commence à avoir des retours où il y a une pénurie de vaccins. Une pénurie de vaccins. On voit que dans certains vaccins, les commandes ne sont pas honorées comme il aurait fallu. Et là, on commence à nous dire, bon, il y aura des pénuries de vaccins. Et donc, on ne pourra pas vacciner tout le monde quand on voulait les vacciner. Et puis après, finalement, non, on pourra vacciner tout le monde. Mais bon, après, vous voyez, il y a celui-là ou celui-là. Enfin, bon, vous, en Belgique, comment ça se passe? Parce que c'est intéressant aussi de faire le parallèle entre les deux pays. C'est des États membres de l'Union européenne. Chez vous, ça se passe comment?
Oh, je pense pas que ça se passe beaucoup mieux, hein. Je veux dire, on a tous un peu, et tous les États actuellement en Europe ont un peu le même problème, c'est celui que tu pointes de la pénurie de vaccins ou les retards dans les livraisons, si on veut. C'est évidemment tout d'abord un problème parce qu'on peut pas administrer des vaccins ou utiliser des vaccins qu'on n'a pas. Mais en deuxième lieu, c'est aussi un problème parce que quand on planifie une campagne de vaccination, en fait, faut pouvoir planifier. Quand il y a deux doses, par exemple, et qu'il y a une certaine période, quelques semaines entre les deux doses, ben, faut être sûr que la deuxième dose arrive.
Exact.
Sinon, on doit les garder au frigo. Et donc, si on a 100 doses, on pourra vacciner que 50 personnes, etc. Donc, ça, c'est évidemment un énorme problème, ces livraisons qui n'arrivent pas, qui arrivent en retard. Et c'est pour.
Ces lignes de production qui ont visiblement des problèmes.
Oui, et en même temps, je veux quand même dire que quand on a lancé en juin cet appel à faire du vaccin un bien public, il y avait aussi une réflexion sur les questions de la production. Parce que on savait, il n'y a pas de secret, qu'aucune
Oui.
entreprise pharmaceutique n'avait suffisamment de capacité productive pour fournir des vaccins tout de suite à toute l'Europe ou encore moins à tout le monde. Et donc, en levant le brevet, si on veut, en partageant les technologies, par exemple par l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé ou d'autres outils, ben, on permet à davantage d'entreprises de produire. Et donc, on augmente, si on veut, la taille du gâteau. Et donc, on augmente la capacité productive, mais aussi, la rapidité des campagnes de vaccination plutôt que d'être à chaque fois, en attente. Est-ce qu'ils vont nous livrer? Est-ce qu'ils vont pas nous livrer? Parce que c'est terrible. On paye tant de fois et finalement, à la fin, on n'a même pas le vaccin.
Et ça dénote quand même l'hypocrisie du mécanisme COVAX.
COVAX, c'est un mécanisme qui, en théorie, est très joli, mais,
Et qu'en théorie, parce qu'en fait, ça se substitue à la nécessité de lever les brevets, finalement, ce truc-là.
Oui, COVAX, c'est un mécanisme d'achat groupé, disons, au niveau international, hein, donc.
Par des grandes fondations, des choses comme ça, c'est on met de la jolie fleur. Mais
Absolument.
finalement, c'est absolument honteux. Enfin,
Le grand problème surtout, c'est qu'il y a cette contradiction, c'est que d'une part, l'Union européenne finance COVAX, hein,
c'est
avec
ça,
donc,
100 millions d'euros.
oui, un peu plus même maintenant, et donc ça pourrait être une bonne chose en théorie. En pratique, le problème, c'est que quand on a un mécanisme d'achat groupé, mais il y a peu de vaccins à acheter, ce n'est pas forcément une solution, évidemment. Je veux dire, ça ne répond pas, en situation de pénurie, dire on vous permet d'en acheter, enfin, on vous donne de l'argent pour en acheter, mais il n'y a plus rien à acheter parce que nous, on a déjà tout raflé. Là, il y a une hypocrisie de fond. Donc, on ne peut pas à la fois dire nous achetons tous les vaccins, mais on donne de l'argent pour que vous puissiez en acheter aussi. Ah, il n'y en a plus qui reste. Ah,
C'est ça
dommage.
cette forme d'hypocrisie dont je te parlais.
Évidemment,
C'est
évidemment.
une hypocrisie, ça.
Je pense que votre président a fait. Donc Emmanuel Macron a été très fort là-dedans quand il a annoncé, hein, certainement au sommet des grandes puissances industrialisées, que la France serait disponible à céder une petite partie de ces vaccins qu'il aurait.
Faudrait-il encore qu'on en ait?
Exactement. Et donc, surtout, ça ne répond en rien aujourd'hui à l'urgence. Il faut quand même savoir que quand on a des milliers de personnes qui meurent encore dans le monde actuellement, tous les jours, il y a une urgence, il y a une urgence médicale. Et ben moi, je me réfère souvent à Nelson Mandela, de ce point de vue-là. Quand lui, il avait la même situation en Afrique du Sud dans les années 90, comme vous dites, ben lui, il s'est dit, voilà, je dois faire quelque chose sur les brevets. Je dois adapter la législation parce que on a besoin de traitement. Le traitement existe, mais il n'est pas disponible ou il coûte trop cher. Ben, abaissons ce prix, permettons la production de génériques, par exemple. Et donc, ça a été un geste ou un acte qui était là pour renforcer vraiment, enfin pour mettre vraiment la santé au centre plutôt que les intérêts des actionnaires. Parce que.
Ce qui est quand même aussi, je trouve, particulièrement hypocrite dans tout ça, c'est malgré tout que les lobbies pharmaceutiques ont gagné sous le sceau de l'urgence. La Commission européenne a fait des contrats et des choses comme ça, des contrats de vaccins où elle s'est laissée mener par le bout du nez, parce que, bon, effectivement, il y a les brevets, et là, on imagine bien que ce sont les labos pharmaceutiques qui vont être gagnants. Ils vont être gagnants sur tous les points. Et puis les sécurités sociales vont devoir payer aussi. Donc c'est l'argent de tout le monde. Ils n'ont pas envie de donner leurs brevets sous le sceau du secret industriel ou des choses comme ça. Mais on réfléchissait avec le cabinet, parce qu'il existe quand même une directive qui est la directive sur le secret des affaires. Et est-ce que tu penses que juridiquement, on ne pourrait pas essayer de porter le truc de telle façon que l'article 21 dit que si c'est pour une question de santé publique, attention, là, sur le secret des affaires, il ne tient plus.
Oui, certainement, je pense qu'il y a des arguments pour dire que l'excuse utilisée, donc l'excuse du secret d'affaires, n'est que cela, n'est qu'une excuse. Ça, certainement, je pense qu'on peut le dénoncer. Le grand problème, c'est que la Commission européenne et les États membres, parce que j'insiste quand même que les États membres ont suivi ce processus et l'ont approuvé quelque part, hein, donc ils auraient pu, les gouvernements nationaux auraient dû, à mon avis, intervenir pour, mais bon, ils ont partagé tout simplement cette vision des choses. Et on va répondre que ce qu'on nous a déjà répondu, oui, mais on a signé maintenant cette clause de confidentialité. Et donc, oui, mais cette clause ne devait pas être signée. Et je vois qu'il y a des associations qui font de leur mieux maintenant pour obtenir le droit à l'information, tout
Et
simplement.
si on avait demandé au Parlement de se prononcer avant de faire les choses de façon opaque, je pense que malgré tout, on aurait eu quand même un certain nombre de députés qui auraient demandé une transparence sur les contrats.
Oui, je pense qu'on a une forte volonté quand même au sein du Parlement d'avoir une plus grande transparence.
Parce que sur les responsabilités, sur le long terme, toi, je crois que tu les as vus les contrats? Tu en as vu un de contrat?
J'en ai vu trois, oui.
Et sur les responsabilités à long terme, c'est quelque chose qui est aussi opaque ou c'est quelque chose qu'on peut regarder?
Non, ça dépend un peu des contrats, mais il y a quand même un contrat qui est disponible complètement. Alors, le système là-dessus, il est assez intéressant parce que donc vous savez qu'en Europe, on a une directive sur la responsabilité pour les produits défectueux. Évidemment, cette directive, disons dans les grandes lignes, dit que l'entreprise est responsable. légalement, civilement. Donc, la responsabilité civile reste en général avec l'entreprise.
Et pour autant, la Commission, elle déclare en août 2020 qu'afin de compenser les risques élevés pris par les fabricants, les contrats d'achat anticipés prévoient que les États membres indemnisent les fabricants pour les responsabilités.
Absolument. Donc, ça, c'est la porte arrière qu'ils ont trouvée, hein. Donc, c'est-à-dire que formellement, la responsabilité reste effectivement, comme le veut la loi européenne, donc la directive, auprès des entreprises. Mais si jamais il y a effectivement des
Il y a une forme de
compensations à
rétropédalage là
retrouver,
d'un seul coup à la réglementation.
oui, un rétropédalage, c'est plus qu'un rétropédalage, c'est une porte, une échappatoire qui a été trouvée en disant la responsabilité se trouve chez les entreprises, mais si elles doivent effectivement payer, ben alors nous, on va les indemniser.
Et en plus, c'est sous certaines conditions. On n'a même pas une liste exhaustive des conditions.
Non, on a sur les conditions, bon. Ce qu'on peut voir, donc les conditions, disons, sont définies de manière très large. Donc, certainement, la Commission a insinué qu'il ne s'agirait que des, ou les médias ont insinué incertainement qu'il ne s'agirait que des frais juridiques. Mais ça, c'est quand on lit les contrats, et d'ailleurs, ils sont disponibles, vous pouvez vérifier. Ça, c'est
Moi,
faux.
j'ai demandé à voir le contrat, on m'a dit non.
Mais
On m'a dit
normalement,
non parce que d'abord, je n'étais pas dans la bonne commission.
c'est ça, c'est ça.
Pourtant, marché intérieur, c'est quand même un marché qui est passé avec les États membres. Il aurait pu être soumis à la commission marché intérieur d'avoir accès au contrat. Mais non, la commission marché intérieur n'avait pas accès au contrat. Enfin, on ne faisait pas partie des commissions prioritaires. Et la deuxième chose, c'est que, il y a eu tellement de demandes, visiblement d'après le Parlement européen, qu'il n'y avait plus de place.
C'est ça, c'est ça. Bah, ils
Parce qu'il
avaient
faut quand même
prévu qu'il y ait plus
rappeler
de
que les
place, hein.
contrats, quand vous les regardez, vous avez le droit à un crayon, un papier, pas de téléphone et soumis à la discrétion, il me semble.
Oui, bah, ça c'était effectivement. Donc, tout d'abord, on a dénoncé cela au moment où ça s'est fait, hein. Donc, déjà qu'il y avait très peu de place prévue, il faut quand même le dire. Ils avaient, je pense, si je me rappelle
C'était
bien.
deux matinées, un
Oui,
truc
c'est
comme
ça.
ça.
Enfin, une quinzaine de places, je pense qu'ils avaient prévu, grosso modo, pour ce contrat. Et là, on l'a dénoncé. Et du coup, ce qu'on a quand même réussi à obtenir, c'est d'avoir la publication en ligne maintenant des versions censurées de ces contrats. Donc, c'est quelque chose. C'est pas tout. Évidemment, c'est des contrats aussi, il faut le dire, qui sont peut-être les moins intéressants. Bon, celui
Oui.
d'AstraZeneca, il est intéressant. Celui de CureVac et de GSK Sanofi ne sont pas forcément les plus intéressants parce que c'est des vaccins qui encore ne
Et
sont pas
celui
sur
de
le marché.
Pfizer, quand est-ce qu'on va avoir la disponibilité de ce contrat-là?
Ah, c'est une très bonne question. Je me rappelle, ça c'était un passage intéressant, certainement en plénière, la commissaire à la santé, Stella Kyriakides, nous promet qu'elle a un accord, nous annonce, grande pompe comme ça en plénière, qu'elle a un accord avec Pfizer pour publier ce contrat. Et l'après-midi sur Twitter, son porte-parole dit, comme elle l'a bien dit, on cherche à publier ce contrat, mais pour l'instant, on a un accord uniquement avec CureVac. Donc, en gros, c'était un rétropédalage assez impressionnant.
Et tu
Maintenant,
as
je...
réussi à interroger les labos quand ils sont venus au Parlement?
Oui. Bah, les
Et
labos.
dans quel parce que j'ai eu l'impression en lisant les articles de journaux que c'était AstraZeneca qui essayait d'être le plus transparent dans ce que j'ai lu. Tu avais cette impression-là aussi quand tu as interrogé?
J'avoue que c'est difficile à dire qui est plus transparent, qui est moins transparent. Maintenant, ce qui s'est passé avec AstraZeneca, c'est qu'AstraZeneca, certainement, il y a eu des soupçons très forts à son égard par rapport aux livraisons, donc que l'entreprise disait avoir des difficultés de production, ce qui est possible, évidemment. Mais le soupçon de la Commission européenne était que peut-être alors qu'elle comprenait pas pourquoi alors les livraisons dans d'autres pays n'avaient pas de retard. Et donc là, AstraZeneca a été convoqué par la Commission européenne, n'a clairement pas convaincu la Commission européenne. Donc, difficile à dire. Après, il y avait des excuses assez bizarres pour ne pas partager la technologie. Moi, j'entendais que AstraZeneca, je pense aussi Moderna, disait oui, mais on est petit, on a peu d'ouvriers, on n'a pas le temps. Bon, on sait très bien que dans le secteur, il y a des moyens pour partager.
Et Sanofi était présent, je crois aussi.
Sanofi, oui, Sanofi est présent. Bon, Sanofi est a une position particulière aussi, hein, parce que avec son vaccin qui a pris
Sanofi,
beaucoup
il n'aurait pas pu nous dire oui, on n'a pas beaucoup d'ouvriers, hein, parce qu'il est en train d'en licencier un certain nombre, donc il ne pouvait
de
pas trouver cette excuse-là.
Je veux même vous dire qu'en Belgique, on a eu Pfizer qui a annoncé des licenciements récemment dans un site de distribution ici près de Bruxelles. Et on se dit, mais
En
comment
pleine
peut...
pandémie, alors qu'il y a besoin de personnel pour faire
Voilà.
des vaccins, ils vont licencier du monde.
Oui, du moins, enfin, ici dans la distribution, mais on se pose quand même la question, c'est
C'est
quoi
un
le...
peu comme à l'hôpital en France où on est en pleine pandémie, mais on va continuer à fermer des lits.
Oui, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Ça ne se justifie certainement pas par une situation économique précaire de l'entreprise, hein, soyons clairs. Donc,
Je suis bien d'accord avec toi. Et comment alors, l'ICE, comment on peut faire pour la pousser, la pousser, la pousser et puis donner un coup de main, hein, sur cette belle initiative que vous avez prise concernant les vaccins? Comment on peut pousser ça pour qu'il y ait ce million de signatures?
Nous, on a décidé d'appuyer l'initiative citoyenne européenne parce que il y a un côté d'outil légal, si on veut. Donc, si jamais on arrive avec toutes les associations, les syndicats, les ONG, etc., qui soutiennent cette initiative, à avoir 1 million de signatures, alors la Commission européenne est obligée de réagir. Donc ça, c'est intéressant.
Tu penses qu'elle ne va pas l'acheter parce qu'elle a le pouvoir de jeter ou pas une initiative?
Oui, si elle décide de le jeter, alors le Parlement peut, parce que le Parlement peut ensuite juger s'il trouve oui ou non suffisante la réaction de la Commission européenne.
Elle doit expliquer, parce que tu y connais plus que moi quand même, législativement parlante. Le Parlement peut, s'il voit l'initiative citoyenne européenne monter en puissance et atteindre ces millions de signatures, et que pour autant la Commission dit bah non, on la jette, le Parlement a une vision de ce que la Commission européenne peut jeter comme initiative.
Mais ça dépend un peu tout d'abord de ce que fait la Commission européenne. Ça, c'est quand même assez important. Mais ici, comme il s'agit d'une claire initiative, d'une proposition législative, soit la Commission européenne dit non, ça ne nous intéresse absolument pas, on ne prendra aucune initiative. Et là, effectivement, on peut demander une audition dans une commission parlementaire. Soit la Commission va effectivement prendre une initiative qui passera par le Parlement européen. Et donc là, il faudra aussi voir, voilà, il y aura tout un combat à mener, hein. Donc il y aura un combat à mener parce qu'on sait très bien que les majorités au sein du Parlement, c'est pas toujours facile. Mais il est clair que quand on a 1 million de citoyens derrière soi, que ça donne un certain poids.
Vous en êtes à combien là, Marc, à peu près?
Je sais que il y a quelques jours, on a dépassé les 100 000. C'est un bon
C'est un bon
début.
début.
Oui, je pense que c'est un bon début. Après, il faut effectivement la faire connaître, la faire signer. Parce que si on a compris une chose, et je pense que beaucoup de gens sont d'accord là-dessus, c'est que le poids sur nos vies et sur nos politiques des grandes industries pharmaceutiques et des lobbies pharmaceutiques est extrêmement énorme,
Puissant.
puissant et déterminant même. Et donc, comme ces forces, si on veut, sont unies aussi au niveau européen, hein, donc ils ont un lobby européen des industries pharmaceutiques, mais il est important que face à ce lobby-là, les citoyens puissent s'organiser aussi et peser aussi, parce que
Ben,
si
c'est eux les premiers concernés. Ce sont eux les premiers
Exactement,
concernés. On
exactement.
parle de leur santé.
Exactement. Et donc, c'est un peu reprendre le contrôle sur sa santé, sur la politique
De santé
de
que veut
santé.
chaque citoyen.
Exactement, exactement. Et donc, voilà, comment le faire? Ben, évidemment, aller sur le site, hein, donc No Profit on Pandemic, c'est pas trop pour
Si tu es
apprendre.
d'accord, on le mettra aussi en lien pour inciter les
Oui,
gens
bien sûr,
à
bien sûr.
aller signer cette initiative.
Bien sûr,
Parce
c'est
que
tout à fait.
malgré tout, c'est quand même le fait que le citoyen s'exprime qui est finalement juste normal. Juste normal. Enfin, les politiques, malheureusement, sont décidées des fois, en tout cas à la Commission, dans des belles tours de verre complètement déconnectées des citoyens. Et c'est chouette qu'on puisse aussi, par cette initiative, permettre aux citoyens de choisir eux-mêmes la politique de santé qu'ils ont envie.
Absolument, absolument. Et de pouvoir décider aussi, je trouve. Donc il y a le côté santé, il y a le côté fonds publics aussi. Je trouve que c'est pas normal que quand on investit des fonds publics, qu'on n'y attache aucune condition quasi. Ça, c'est quand même incroyable. Donc, dans ces contrats, on n'a pas de condition, pas de tableau, comment dire, de
Aucune
livraison.
conditionnalité, aucune. Si,
De,
il y a
oui, et
peut-être.
de, surtout par rapport aux livraisons, donc au niveau temps, au niveau.
Mais même au niveau suppression d'emplois, Marc, il n'y a pas de conditionnalité.
Non, c'est
Ces
ça.
entreprises, elles ont touché de l'argent public. Et il n'y a pas de conditionnalité sur le fait que ben, vous touchez de l'argent public, mais vous n'avez pas le droit de licencier des gens.
Non, c'est vrai, comment dire, il y a une vraie question, je trouve, tant au niveau à qui appartient le résultat que quelles conditions, mais ça dépasse aussi ce débat, hein, donc c'est aussi par rapport aux autres fonds publics, que ce soit pour la transition écologique,
Bien sûr.
pour d'autres secteurs. De dire, voilà, nous voulons des conditions claires. Et donc, dans ce sens-là, je trouve que cette initiative citoyenne, elle a un double ou un triple intérêt, parce que il y a la question sanitaire, il y a aussi la question de la transparence, et il y a la question de comment est-ce qu'on utilise nos fonds publics. Est-ce que c'est des subventions aux dividendes des actionnaires, ou est-ce que ça garantit des emplois, des salaires et une production réelle? Donc, je trouve qu'il
D'où
y a
je pense que
un
tu
truc
seras
à...
d'accord avec moi, il faut un véritable service public de la recherche, service public européen de la recherche, un véritable service public du médicament.
Oui, je pense qu'il faut réfléchir à comment. Je sais qu'en France, il y a différentes propositions qui ont été
Non, mais
déposées.
même au niveau européen.
Oui, on peut le faire au niveau européen. Maintenant, il y a des propositions de la Commission européenne qui acceptent quand même l'importance du rôle du secteur public. Donc ça, je trouve que c'est déjà une petite victoire.
Oui.
Après, on sait très bien que pour le concrétiser et pour éviter que ça soit tout à fait sous-traité aux industries privées, il faudra se battre. Mais je pense qu'il y a de plus en plus, et c'est pour ça que je fais référence aux propositions de loi qu'il y a en France, la conscience et du fait qu'on ne peut pas laisser notre santé et les médicaments essentiels dans les mains
De privé.
du privé et d'un secteur, parce que le privé, c'est pas une question d'être contre le fait qu'il y ait un secteur privé ou qu'il fasse du profit sur, je sais pas, une crème quelconque, mais sur ces vaccins ou sur la question des médicaments essentiels pour nous tous. Je pense que ça devrait être effectivement impulsé, contrôlé par le secteur public. Ça me semble évident. C'est pas si bizarre non plus. D'ailleurs, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il y a une liste de médicaments essentiels, ou une base au moins. Partons de là.
Oui, mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, en tout cas, c'est un sujet éminemment important et un sujet où il faut veiller, en tout cas. Moi, je pense qu'il faut continuer à veiller. Bah, je ne sais pas si tu avais autre chose encore à rajouter, Marc, mais merci parce que cet entretien aussi avec toi m'en apprend aussi. Donc, c'est plutôt chouette. Je ne sais pas si tu avais encore envie de rajouter quelque chose ou si tu voulais qu'on en reste là ou.
Non, moi je pense que c'est chouette d'en discuter comme ça. Je pense d'abord, c'est vraiment parce que c'est un sujet important, c'est un sujet, comment dire, d'actualité. Et donc merci en premier lieu pour cet échange. Et deuxièmement, peut-être quand même, oui, à inciter, comme tu l'as fait, hein, tout le monde à aller sur le site, à aller voir cette initiative citoyenne, Pas de profit sur la pandémie, pour dire, voilà, je veux la signer, je veux la partager, etc. Parce que je veux qu'il y ait un pouvoir citoyen, une mobilisation face à cette toute puissance des labos.